Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Congo Massimo.
À la une, la tenue de plusieurs à Kinshasa des états généraux des postes et télécommunications, c'est jusque demain. Les experts élaborent une feuille de route pour établir la connectivité de 145 territoires. C'est le chef de l'État qui a lancé les travaux. Après une semaine de répit, la peur a de nouveau envahi les habitants des quartiers Sikotra, Lokali et Moutele dans la commune de Lancele à Kinshasa. Des bandits armés ont de nouveau opéré dans des habitations la nuit de dimanche à hier lundi. Après 2 mois passés au Burundi, les Congolais qui ont opté pour le retour volontaire au pays commencent déjà à rentrer à Uvira. Un premier convoi de 470 personnes est arrivé jeudi dans cette ville du Sud Kivu. Ce retour était au centre du débat entre les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier lundi. Leur réaction dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Il y a eu ouverture hier lundi à Kinshasa des états généraux du secteur des postes et télécommunications avec comme thème « Postes et télécommunications, vecteur de la croissance économique et de développement ». Pendant 3 jours, soit jusque demain 29 avril, les experts réfléchissent pour relever les défis dans ce secteur. Ils élaborent en même temps une feuille de route stratégique nationale à court, moyen et long terme. L'objectif est d'établir la connectivité de 145 territoires, réduire les fractures numériques, soutenir la réforme légale et une réglementation profonde. C'est le président de la République qui a ouvert ses assises. Richard Junior Kamunga a couvert cet événement et nous propose cet extrait du discours de Félix Tshisekedi.
Dans ce monde en mutation accélérée, aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant qu'en marge des grands flux numériques, logistiques et informationnels. Il nous revient donc d'ériger le numérique, les télécommunications et la modernisation postale en levier stratégique de notre développement national. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition de faire de la République démocratique du Congo une nation digitale à l'horizon 2030 en cohérence avec les priorités du gouvernement. Le secteur des postes de télécommunications est d'aujourd'hui à l'intersection de plusieurs enjeux majeurs. Il est d'abord un enjeu de connectivité territoriale. Dans un pays continent comme le nôtre, relier les territoires, connecter des provinces, désenclaver les zones rurales et rabroger les citoyens des services essentiels est une exigence de cohésion nationale.
Dans ce journal aussi, chez chiffres, la RDC est passée de 300 millions de dollars américains en 2022 à plus de 2 milliards en 2023, puis 2,4 milliards en 2024, avant de retomber à 1,7 milliard. Ces chiffres issus des contrôles menés par l'Agence des régulations du secteur de la sous-traitance, ARSP, ont été présentés par son directeur général, Miguel Cachal. C'était lors d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, hier à la RDC. À la télévision nationale. Par ailleurs, plus de 450 entreprises ont été radiées au Congo central pour inéligibilité. Selon Miguel Cachal de l'ARSP, ces résultats illustrent l'impact des réformes visant à renforcer l'accès des entreprises congolaises au marché dans un secteur pouvant générer jusqu'à 8 milliards de dollars américains par an et créer des millions d'emplois. Miguel Cachal Katambo, directeur général de l'ARSP, est au micro de Blaise Chindani.
Certes, la loi sur la sous-traitance a été votée en 2017, mais l'évaluation faite en 2022, donc nous étions à 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, les statistiques que nous avons publiées, en 2023, nous sommes allés à plus de 2 milliards de dollars, des chiffres d'affaires réalisés. Donc, de plus de 300 millions en 2022 et à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Donc, ceci démontre déjà l'impact de la vulgarisation que nous avons accéléré sur toute l'étendue du territoire national et aussi de mettre en place les parties prenantes. Donc, les sociétés principales, les corporations, entre autres, la Fédération des entreprises du Congo, les autres corporations, donc toutes les parties prenantes, afin de leur dire qu'ils ne sont pas des adversaires, mais ils doivent travailler ensemble parce que la loi elle-même sur la sous-traitance parle d'un partenariat. À MGT, le port de Matadi, nous avons radié, je crois, plus de 50 sociétés sous-traitantes qui étaient inéligibles. Et les 4 cimentiers réunis, nous avons radié 408 sous-traitants.
Miguel Cachal indique que la prise de Goma a fuité les recettes enregistrées en 2025 en baisse par rapport aux années précédentes. Dans la commune de la Célé à Kinshasa, les habitants des quartiers Siko, Trin-Locali et Montélé sont de nouveau confrontés à une situation sécuritaire préoccupante. Après un retour au calme observé la semaine dernière, la nuit de dimanche à hier lundi a été marquée par des incursions d'hommes armés, ravivant des inquiétudes au sein de la population. La peur a de nouveau gagné les esprits. Plusieurs habitants affirment passer leur nuit dans l'angoisse, redoutant de nouvelles attaques. Face à cette situation, les appels au renforcement des dispositifs sécuritaires se multiplient. DDT avec Christian Makasinga.
C'est entre 2h12 et 4h35 minutes que plusieurs habitations ont été ciblées dans le quartier Sikotra Locali et Montélé. Selon les témoignages recueillis, les assaillants ont opéré avec méthode brisant vitres et ouverture avant de contraindre les occupants à remettre argent, téléphone et autres biens de valeur sous la menace d'armes à feu.
Ils ont cassé la vitre d'une fenêtre et ont contraint les occupants à leur remettre de l'argent, des téléphones et d'autres biens. Comme il s'agit de maisons de location, ils ont procédé pièce par pièce. Dans une autre chambre, ils ont trouvé un jeune garçon à qui ils ont exigé son téléphone, qu'il a dû le remettre par la fenêtre sous la menace d'une arme. Ils l'ont menacé de le tuer s'il ne s'exécutait pas. Ensuite, ils sont allés dans d'autres maisons où ils n'ont trouvé que des enfants. C'est après leur passage qu'un élément de la police est intervenu et a tiré deux coups de
balle. Les habitants encore sous le choc appellent à une intervention urgente des autorités pour sécuriser durablement la zone.
Et si nous continuons toujours à lancer l'alarme aux autorités compétentes, en commençant par les bourgmestres, qu'ils puissent nous venir en aide pour que des dispositions soient prises pour renforcer la police en hommes et en matériel, et aussi les matériels de communication pour qu'ils puissent intervenir chaque fois qu'il y a un cri d'alarme dans la communauté.
Contactés, les bourgmestres affirment ne pas être encore informés de cette situation. En attendant une réaction officielle des autorités locales, la population reste sous les qui-vive redoutant de nouvelles incursions nocturnes.
Et la même nuit de dimanche, hier lundi, au Nord Kivu cette fois, des dizaines d'habitants ont été victimes de pillages lors d'une incursion d'hommes armés au village de Kiuma, groupement de Boabo, territoire de Masisi. Selon des sources administratives locales, l'attaque s'est produite entre 20h et 22h locales. Des hommes armés non autrement identifiés ont fait irruption maison par maison au quartier Kato et au centre de Kiuma, sémant la panique au sein de la population. Des détails à ce sujet avec vous, Benjamin Moudoumbi.
Des machines à coudre, des habits, de l'argent ainsi que d'autres biens de valeur ont été emportés par les assaillants. Les sources de la notabilité locale les rapportent également l'enlèvement des deux jeunes garçons au cours de cette même incursion. Jusqu'à présent, leur destination reste inconnue. De son côté, la société civile locale de Boabo dresse un bilan alarmant de la situation sécuritaire. Elle affirme qu'au moins 15 civils ont été tués par balles en l'espace de mois lors des différentes attaques menées par des hommes armés dans plusieurs agglomérations dont cette entité coutumière. C'est notamment en Ndété et Machaki, le dernier incident ayant coûté la vie à 5 civils, parmi lesquels un enseignant, un nourrisson et sa mère est survenu vendredi dernier. La société civile dénonce ces violations répétées des droits humains et du droit international humanitaire dans cette zone sous occupation de la FCM-23, mais où opèrent également plusieurs autres groupes armés. Selon cette structure citoyenne, les groupes des Boabo, comme d'autres du secteur Osso-Banyungu se trouve depuis plusieurs mois au cœur d'un cycle de violences, de pillages et d'affrontements impliquant des groupes rebelles et des milices Wazalendo.
Il y a eu poursuite hier lundi au tribunal militaire de garnison de Lubumbashi, siégeant en foraine au stade Kibasa Maliba de l'audience en flagrance qui oppose le ministère public à 32 jeunes militants des partis politiques UNAFEC et ARDEV. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Ils sont accusés d'avoir semé des troubles dans la commune de Lakenya. Le point avec Paula Munanga.
L'audience de ce lundi a été consacrée à l'instruction du dossier et à l'audition d'un renseignant. Au cours de cette audience, les avocats de la défense ont demandé à ceux de la partie civile de préciser comment s'est fait l'identification des jeunes qui sont à la barre et qui sont accusés d'avoir semé des troubles dans la commune de Lakenya. En réaction, les avocats de la partie civile ont fait savoir que c'est difficile dans ces désordres d'identifier qui a fait quoi. Quant au renseignant, il a éclairé le tribunal au sujet de l'arrestation des deux prévenus. Il a donné des éléments les disculpant, précisant qu'ils ne font pas partie des jeunes des partis politiques, mais il s'agit d'un chauffeur et de son convoyeur qui ont été arrêtés dans la foulée à tort. L'audience a été renvoyée à ce mardi. Pour rappel, les 13 et 14 avril dernier, les jeunes des partis politiques UNAFEC et ARDEV se sont violemment affrontés à l'arme blanche dans la commune de Lakenya. Au cours de la bagarre, ils ont incendié et vandalisé des véhicules pillé et emporté plusieurs biens de valeur des particuliers. Lubumbashi, Polemunanga, Radio Okapi.
En Ituri, plusieurs cas d'incendie des stations-service et des lieux d'approvisionnement en produits pétroliers sont enregistrés ces derniers jours. Le plus récent a eu lieu samedi au quartier Délé à Bounia. Une station-service a pris feu, causant d'importants dégâts matériels ainsi que la perte d'une somme d'argent considérable. Avec ce nouvel incident, le nombre de cas s'élève désormais à 4 en moins de 6 mois dans cette province. Face à cette situation, le service de protection civile tire la sonnette d'alarme sur le non-respect des mesures de sécurité dans ces sites à haut risque, exposant davantage des populations riveraines. Martial Kizabiamungo.
Ces incidents sont signalés régulièrement dans plusieurs agglomérations de la province, notamment à Bounia, Nyanya, Mambasa, Arou et Mahagui. Le samedi dernier, à Bounia, la station service Top Star Energy a été ravagée par un incendie. Selon Maître Sylvain Guetteau, avocat conseil du propriétaire, l'incendie serait dû à un problème électrique survenu sur un camion venu s'approvisionner en carburant stocké dans des fûts. Consterné par la répétition de ces incidents dans des stations-services souvent installées à proximité des habitations, les services de la protection civile appellent au strict respect des mesures de prévention afin de réduire les risques et protéger les vies humaines. Robert Djalonga.
Nous avons toujours recommandé à ces propriétaires de mettre en place un nombre suffisant d'extincteurs.
De leur côté, des sources proches de la mairie de Bounia appellent la population ainsi que les exploitants des stations-service à faire preuve de plus de responsabilité pour prévenir en limitant les conséquences humaines et matérielles. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Une nouvelle unité paramilitaire dédiée à la sécurisation du secteur minier vient d'être créée en République démocratique du Congo. Baptisée Garde des mines, elle est mise en place par l'Inspection générale des mines, IGM, afin de protéger l'ensemble de la chaîne d'exploitation des minerais sur le territoire national. Selon un communiqué publié hier lundi, 20 000 agents seront formés pour assainir le secteur et lutter contre les pratiques contraires à la bonne gouvernance, à la transparence et à la traçabilité des minerais. TDT avec John Chibu.
Selon les communiqués, financés à hauteur de 100 millions de dollars, ces projets s'inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique entre les États-Unis, les Émirats arabes unis et la RDC. L'inspection générale des mines précise que les recrues seront déployées dans 22 provinces. Elles suivront un programme d'entraînement de 6 mois élaboré en collaboration avec la maison militaire et seront équipées de matériel de dernière génération. Les communiqués précisent que la garde des mines aura pour mission principale la sécurisation des sites miniers sur l'ensemble du territoire national. Les convoyages sécurisés des minerais depuis les zones d'extraction jusqu'aux unités de traitement et aux postes frontaliers. Le remplacement progressif des forces de défense actuellement déployées dans des zones minières. En ce qui concerne le calendrier des mises en œuvre, l'UGM annonce un déploiement progressif. Mai 2026, lancement du recrutement sans distinction des genres. Juin à décembre 2026, formation de la première promotion suivie du déploiement d'un premier contingent de 2500 à 3000 agents. 2027, sécurisation prioritaire du Grand Katanga et de la Grande Orientale. 2028, extension de la garde des mines sur l'ensemble du territoire national.
Le gouvernement congolais entend renforcer la bonne administration des droits humains à travers le pays. C'est dans ce cadre que le ministre des droits humains, Samuel Mbimba, a lancé hier un programme visant à doter les divisions provinciales des droits humains des bâtiments administratifs fonctionnels. Selon le ministre, cette dotation permettra aux entités provinciales d'améliorer leurs conditions de travail et de mieux assurer leur mission de promotion et de protection des droits humains en République démocratique du Congo. Suivez les propos de Samuel Mbimba au micro de Blaise Chindani Kambala.
Cette activité rentre dans le cadre général de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous a chargé de trois choses particulières. Premièrement, de rendre effectif et réel la présence du ministère des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, faire le plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo par le Rwanda. Troisièmement, travailler pour l'implémentation de la justice transitionnelle.
À partir d'aujourd'hui, mardi, Samuel Mbemba entame une tournée provinciale pour inaugurer les bâtiments administratifs du ministère des Droits humains à travers le pays. La campagne de vaccination contre la poliomyélite édition 2026 s'est officiellement achevée dimanche dans les aires de santé de la ville de Beni, au Nord Kivu. Sur le terrain, la sensibilisation menée par les équipes sanitaires a permis de réduire les cas de résistance observés chez certains parents, notamment dans l'aire de santé de Kassibignolé. Malgré ces avancées, la couverture vaccinale reste encore insuffisante dans cette zone. Les équipes comptent désormais sur les journées de rattrapage pour atteindre les enfants non vaccinés. Marc Marofimbo.
Dans l'aire des santé de Kassibignolé, plus de 10 000 enfants étaient attendus pour cette campagne. Dans plusieurs quartiers, notamment Gbadou, Mouzambaye et certaines cellules de Boïkéné, des poches de résistance avaient été enregistrées au début de l'opération. Selon les équipes de vaccination, ces refus initiales s'expliquaient en grande partie par un manque de formation chez certains parents inquiets des effets du vaccin. Mais grâce aux actions de sensibilisation menées sur le terrain, plusieurs d'entre eux ont fini par accepter de faire vacciner leurs enfants, comme en témoignent ses parents.
Premièrement, j'ai peur de vacciner les enfants parce qu'après les vaccins, il y a des problèmes de santé, mais je pense que ça n'aura pas beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes et j'espère que l'enfant sera toujours en bonne santé.
Pour le docteur Janvier Kambale, responsable de l'aire de santé de Kassibignolé, la mobilisation doit se poursuivre, notamment pendant les jours de rattrapage.
Il y a eu une sensibilisation à travers le mégaphone et par les recos mobilisateurs. Aujourd'hui, le nombre n'est pas encore bien connu, mais on est en train de visiter les équipes et on comprend qu'il y a déjà des enfants qui sont vaccinés, mais le nombre n'est pas bien identifié dans l'aire de santé de Kassibignolé.
Des jours supplémentaires ont en effet été accordés pour vacciner les enfants non couverts et renforcer leur protection contre la poliomyélite. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un avion léger s'est écrasé hier aux environs de la capitale sud-soudanaise, Juba, causant la mort de l'ensemble de ses occupants, soit 13 passagers et son pilote, selon les autorités de l'aviation civile du pays. D'après les premiers éléments communiqués, l'appareil aurait été confronté à de mauvaises conditions météorologiques, ayant fortement réduit la visibilité au moment du vol. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances du drame.
L'invité.
Un premier convoi de 470 réfugiés congolais en provenance du site de Ruigi au Burundi est arrivé jeudi à Uvira dans la province du Sud Kivu. Ces rapatriés volontaires ont été accueillis au site de transit de Kavimvira situé non loin de la frontière entre la RDC et le Burundi. Cette issue a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'Irlande. On les écoute au micro de Guimaté.
Jean-Jacques Porroussi, vous êtes gouverneur de la province du Sud Kivu. Comment vous réagissez au retour de ces réfugiés congolais à Uvira en provenance du Burundi?
Je suis ravi, hein. Nous sommes tous ravis de voir que nos populations sont rentrées, commencent à retourner progressivement. Comme vous le savez, la souffrance dans ces camps de réfugiés était immense. Il y avait quand même environ 10 à 15 morts par jour dans certains camps. Et nous sommes ravis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue du Burundi, ensemble avec la communauté internationale représentée par le HCR, ont trouvé un arrangement spécial à travers cette tripartite. Et comme les compatriotes viennent de le dire précédemment, le gouvernement provincial du Sud Kivu travaille avec le gouvernement central et la société civile d'autres acteurs pour mobiliser les acteurs ainsi. Le Programme alimentaire mondial, le CICR, les ONG, notamment MSF, à travers la coordination humanitaire, sont déjà suffisamment mobilisés et des stocks de nourriture et de médicaments sont déjà en train d'arriver sur Uvira.
On sait que la situation sécuritaire est encore volatile à Uvira et dans les environs. Monsieur le gouverneur, qui assure la sécurité de ces retournés? La police nationale, le FRDC ou c'est plutôt le Wazalendo?
Non, les Wazalendo sont déployés sur les lignes d'opération. Il y a la police nationale congolaise qui est bien renforcée. Comme vous le savez, hein, depuis que nous avons récupéré Uvira, il a plu au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter nos forces de défense et de sécurité. Ainsi, la police a été renforcée par de nouvelles unités, des nouveaux équipements. Ils ont tout ce qu'il faut. Et donc nous avons une forte présence de la police nationale congolaise, mais aussi de la police militaire. Uvira est sécurisé. Le camp de transit de Kavimvira qui accueille nos compatriotes qui rentrent des camps de réfugiés, il est sécurisé. Et voilà, les gens commencent à rentrer progressivement chez eux.
Merci Mwalimu Mapenzi Manyeboa, vous êtes président de la synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira. Comment vous percevez cette opération des rapatriements des réfugiés congolais à Uvira en provenance du Burundi?
Nous devons d'abord commencer par remercier la démarche du gouvernement congolais ainsi que le gouvernement burundi. On doit aussi dire que nous remercions les partenaires, notamment les ACR. C'est vrai, il y a beaucoup de défis que nous devons soulever parce que avant que nous puissions avoir les rapatriés volontaires, il y a eu un grand nombre de rapatriés spontanés. Et aujourd'hui, nous comptons au moins 45 978 personnes rapatriées d'une manière spontanée. Et toutes ces personnes jusqu'à maintenant ne sont pas acceptées. Nous devons soulever aussi qu'il y a l'aspect de non-respect de certaines mesures humanitaires parce que en regardant la manière dont l'assistance a été organisée, on n'a pas vraiment tenu compte des éléments nécessaires pour rapatrier nos frères avec dignité. Donc, quelque part là, il y a eu l'erreur de procédure et surtout le non-respect de la protection des réfugiés.
Merci, Deo Gracias Bouma. Vous êtes analyste indépendant et directeur exécutif de l'ONG Action pour la paix et la concorde, APC en sigle, mais aussi CONAFOD. Et de votre point de vue d'analyste, vous pensez que les conditions sécuritaires sont réunies pour permettre le retour de ces Congolais?
Moi, je pense que dès lors qu'il y a la présence de nos FRDC, il y a la présence de la police, il y a aussi la présence graduelle de la communauté internationale à travers la MONUSCO qui va se redéployer. Je crois que il est temps que les gens rentrent parce que le retour aussi va contribuer à la construction de cette sécurité. Parce que la sécurité, c'est une affaire de tous et de toutes. Et plus les populations qui étaient réfugiées au Burundi rentrent, plus nous tous ensemble, nous devons nous souder les coudes pour que nous travaillons chacun en ce qui les concerne à la construction de cette sécurité, de cette stabilité que nous préférons tant.
Vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net, aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci de votre attention.